talmudique. Je pense à ce livre de Philippe Roth intitulé « Patrimoine », un récit qui proclame l'infinie complexité, la permanence de la vie, la nécessité de se souvenir, de ne rien oublier, car écrit-il, « Être vivant, c'est être fait de mémoire. Si un homme n'est pas fait de mémoire, il n'est fait de rien. » Et je me suis demandé alors qui se souviendra. Non pas qui se souviendra de ce moment de bouleversement planétaire où l'humanité redécouvrit sa fragilité, sa petitesse et sa toute non-puissance, sa vulnérabilité, mais qui se souviendra comment le monde avait été avant, comment il fut pendant et ce qu'il devint après. Bien sûr, il y aura les historiens, des romans et aussi des poèmes, beaucoup de livres et beaucoup de films, peut-être des peintures et des sculptures, mais il y aura aussi le témoignage de ceux qui, semaine après semaine, au fil du temps et sur l'écume des jours, avant, pendant et après, auront écrit sur l'état du monde et des hommes, nous parlant de leurs émotions, de leurs peurs, de leur tristesse, de leur engagement, de leur solitude, de l'obscurité, mais aussi de la lumière, de la confiance et de l'espoir. Précieuse chronique, ce mot si plein du temps et de l'attention au temps qui passe, au temps qu'il fait, au temps que nous vivons, que nous traversons et surtout qui nous traverse. Ce temps de bouleversement vint parfois s'ajouter à d'autres malheurs, s'est conjugué à d'autres douleurs, rendant encore plus aigu le questionnement sur la vie et la mort. Alors, certains ont pris leurs plumes pour écrire sur le tragique de la vie et transmuer en mots les larmes de leur âme. Mais d'autres aussi ont pris leurs plumes, non pour s'accrocher au chagrin, mais pour découvrir ce que le chagrin découvrait en eux. Cette terra incognita de chacun d'entre nous, celle de notre infinie faiblesse et tendresse, là où le cœur attend. Ou enfin, quelqu'un apparaît de loin pour venir à vos côtés. Cette dernière phrase, je l'emprunte à l'avant-propos du dernier livre de Frédéric Boyer, intitulé « Sous l'éclat des flèches », qui vient de sortir aux éditions Bayard. Un livre magnifique qui, dans une écriture d'une très grande beauté, allie la poésie à la méditation philosophique et au souffle biblique des prophètes, un ensemble de chroniques s'étalant sur 3 ans, qui offre non seulement un souvenir de ce qui fut, mais de ce que nous avons à être. Une invitation à se souvenir que nous devons continuer à vivre. Frédéric Boyer, bonjour.
Bonjour.
Frédéric Boyer, je vous ai reçu dans Talmudique la semaine dernière avec Serge Bloch à l'occasion de la sortie de votre livre commun intitulé « Jésus, une histoire de parole ». Et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de votre travail d'écrivain, d'éditeur, de lecteur et de traducteur autour de votre dernier livre que je viens d'évoquer intitulé « Sous l'éclat des flèches ». Tout d'abord, pourquoi ce titre, Frédéric Boyer ?
Parce qu'effectivement, comme c'est un recueil de chroniques écrites entre 2018 et 2020, il fallait trouver un titre commun. C'est pas évident. Je voulais pas l'appeler simplement chronique. Alors, d'une part, c'est quelque chose que j'ai jamais dit, donc je vais le dire maintenant. C'est une citation biblique du livre d'Habacuc, qui est pas très lu et qu'on connaît pas beaucoup. Et je suis tombé dessus un peu par hasard. Je dois le dire comme quand on lisait dans l'Antiquité, on ouvrait les livres saints et pour savoir ce qu'il fallait faire et on tombait. J'ai fait un peu pareil. Et puis j'ai trouvé que l'idée d'être sous l'éclat des flèches, bon, c'est un peu un oxymore, l'éclat des flèches, effectivement, c'est que il se trouve que ces chroniques, pour moi, ont coïncidé avec quelque chose de très difficile dans mon existence, puisqu'en 2017, j'ai perdu la femme que j'aimais, Anne Dufourmentel, avec qui je vivais. Elle est morte tragiquement. Et quelques mois plus tard, je perdais un de mes meilleurs amis, un de mes plus grands amis, qui était Paul Otchakowski-Laurence, qui était aussi mon éditeur. Et ces deux disparitions m'ont effectivement bouleversé. Et je peux dire qu'elles m'ont, elles ont entièrement retourné ma relation à l'existence et au monde. Et à ce moment-là, le journal La Croix m'a proposé d'écrire une chronique hebdomadaire, ce que je n'avais jamais fait. Je ne tiens pas de journal, j'en ai jamais tenu. Et je me suis trouvé comme ça dans cet embarras-là d'avoir à parler du monde et en même temps j'étais embarrassé de moi. Donc c'était très difficile de parler du monde quand on est soi-même pris dans sa propre souffrance et son propre chagrin. Et j'ai essayé de trouver un chemin avec ça. Voilà.
Vous êtes écrivain et directeur d'édition POL, donc éditeur. Je ne résiste pas, Frédéric Boyer, à vous poser cette question qui a traversé tous les esprits ces derniers mois. Qu'est-ce que l'essentiel ? Qu'est-ce qu'un bien de consommation essentiel ? Et qu'en est-il des livres et des librairies et des bibliothèques ? Je pense à cette réflexion de Lévinas qui parlait de l'homme comme un « sein zum Buch », un être pour le livre, Frédéric Boyer.
Je me retrouve là-dedans, c'est-à-dire que cette crise sanitaire, qui est une pandémie, effectivement est venu interroger quelque chose que finalement on ne voulait plus interroger ou qu'on a du mal à interroger, c'est bien compréhensible aussi, qui est le rapport à notre propre fragilité. Et on s'est trouvé tous désemparés, justement, d'avoir à, finalement, à s'interroger sur sa fragilité et s'interroger sur ce qu'on faisait d'elle. Finalement, cette crise nous dit, essayez de prendre soin de votre fragilité, essayez de prendre soin du fait que vous n'êtes pas, justement, vous n'êtes pas éternel, que vous êtes de passage, et que c'est dans ce passage, c'est le soin que l'on va porter au passage qui pourra dire quelque chose de notre permanence, peut-être, voilà. Et je pense que le rapport au livre, effectivement, que le rapport au texte est un rapport éclairant sur justement et notre fragilité et notre permanence. Voilà. Pourquoi ? Parce que le texte va solliciter à la fois notre force de souvenir, notre force d'interprétation, puisque vous êtes face à des petites choses qui sont les lettres et des mots, elles résistent et vous devez vous en rappeler, vous devez vous rappeler de ce que vous savez pour lire. On ne peut pas lire sans rien savoir, c'est pas vrai. Il y a comme ça une mémoire, même si c'est inconscient, mais donc vous devez mobiliser quelque chose et qui est quelque chose de très précieux dans l'humanité, puisque vous parliez de Philippe Roth, vous deviez mobiliser ce qu'on va appeler un patrimoine, le vôtre, pour lire, et vous devez interpréter et vous devez solliciter votre intelligence et vous rendre compte que votre intelligence ne peut s'ouvrir que parce qu'elle s'interroge avec d'autres intelligences et avec d'autres ouvertures et d'autres esprits. Et c'est dans cette communion et dans cette discussion, dans ce dialogue, qui peut être parfois une confrontation, que se crée quelque chose qu'on appelle la culture humaine.
Et alors, cette culture humaine, justement, dans la question précédente, je viens de parler de librairie, de bibliothèque, c'est parce que je pense qu'au-delà de l'objet livre et de la lecture, le livre constitue une communauté, des communautés de lecteurs, auxquelles participent aussi librairie et bibliothèque. La notion de communauté est une des notions importantes qui revient souvent sous votre plume, Frédéric Boyer, et je pense à ce très beau commentaire que vous faites sur le verset de l'Ecclésiaste, qui dit « Deux valent mieux qu'un, même si l'un des deux tombe, l'autre relèvera son compagnon, mais malheur à celui qui est un, parce que, étant tombé, il n'aura personne pour le relever. » Comment le livre, la littérature ou l'écriture permettent de faire communauté et d'échapper ainsi au désarroi de la solitude, Frédéric Boyer ?
Parce qu'effectivement, on peut d'abord... Alors on peut lire seul, effectivement, c'est devenu, mais c'est assez moderne de lire seul. Hein. C'est, en gros, ça date effectivement de l'invention de l'imprimerie. À partir du moment où les livres sont imprimés et dupliqués, on va pouvoir lire seul. Ça, c'est une grande victoire. Mais fondamentalement, la lecture, elle ne nous rend pas seuls, justement. La lecture, à l'origine, était une lecture communautaire, que ce soit religieuse ou pas, d'ailleurs. Hein. C'était la tragédie grecque était une forme de lecture. Le chant homérique est une forme de lecture, c'était des aèdes, la chanson de geste médiévale, elle était jouée et chantée dans des communautés. Donc toujours le livre ou la lecture ou le texte a été associé à une communauté. Et même si aujourd'hui on lit seul, et on voit quand on a des enfants qui à un moment donné avec les enfants où on ne peut pas lire seul, où il faut lire avec les enfants, où les enfants doivent vous entendre. Et même souvent les enfants, ce que c'est assez joli d'ailleurs dans l'éducation des enfants, même quand ils ont enfin appris à lire seul, il faut quand même qu'on continue à leur raconter des histoires ou à les écouter eux-mêmes raconter l'histoire. Mais c'est quelque chose de très fort, parce qu'effectivement, la lecture va creuser des liens, des routes, des passages entre nous. Et c'est entre les intelligences, entre les esprits, entre les sensibilités, puisque lire un texte, c'est faire appel à toute sa sensibilité. Voilà, vous pouvez pas comprendre Dostoïevski ou Henry James ou je sais pas quoi, ou n'importe quel autre livre, si vous ne faites pas appel à votre propre sensibilité. Je dis ça pour dire que l'intelligence, il n'y a d'intelligence que sensible. Et que la lecture apporte quelque chose à l'humanité. C'est très ancien, c'est-à-dire que l'humanité a inventé la lecture. Même peut-être elle a inventé la lecture avant d'inventer le livre, justement, puisque elle se lisait elle-même et elle lisait le monde. La Torah commence comme ça. Elle commence par une divinité qui lit le monde, finalement, puisque la divinité appelle les éléments, il leur donne des noms, et la lumière n'existe qu'à partir du moment où la voix dit lumière. Donc, il faut bien qu'il l'ait lu quelque part.
Mais la communauté comme notion principale pour vous?
Non, c'est une question importante parce que, évidemment, donc j'étais dans ces chroniques, il fallait chaque semaine que je trouve un sujet, ce qui est pas évident. Et surtout que je suis pas journaliste et que je me méfie des idées toutes faites qu'on peut avoir, voilà, quand on n'est pas de commentateur de l'actualité. Mais il y a quelque chose qui m'est apparu, effectivement, ça peut peut-être paraître banal, mais moi, ça m'a fait d'une certaine façon à la fois souffrir et ça m'a interrogé, c'est que la notion de communauté, aujourd'hui, dans notre société, est mise à mal. Elle est défigurée. Elle est défigurée par ce qu'on appelle les communautarismes, ou en tout cas par tous les débats autour de ça. Ça nous demanderait toute une émission là-dessus, mais c'est pas parce qu'on dit beaucoup de bêtises aussi sur ce qu'est le communautarisme. Mais bon, on est dans un moment où l'on ne sait plus comment faire communauté. On est dans un moment de grande violence. Je crois que peut-être on n'ose pas trop se le dire, mais on est dans un moment de grande violence. Et je pense pas que aux violences policières ou pas, ou aux violences dans les manifestations, mais on est dans un moment de où effectivement où l'on ne sait plus comment trouver le chemin d'un bien commun. Et je crois que c'est parce que l'on ne sait plus discuter. Voilà. On parlait de Jésus la semaine dernière. On est dans une émission qui s'appelle Talmudique. Et ben, relisez les textes du Talmud, relisez les évangiles, et vous verrez qu'on ne fait que discuter, et qu'on s'engueule, et qu'on n'est pas d'accord. Et c'est à partir du moment où on accepte de parler de nos désaccords que quelque chose de commun se passe. C'est quelque chose qu'on a oublié totalement. Soit on veut éraser les désaccords, soit on veut un consensus qui est parfois inintéressant. Soit on veut abattre l'autre parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Alors que, et ça rejoint ce qu'on dit sur la lecture et sur le livre, vous devez exposer vos désaccords et vous devez interroger l'autre, parce que c'est en portant sur nos désaccords qu'on va finalement trouver de quoi vivre ensemble.
Frédéric Boyer, vous aimez les histoires, vous aimez en lire et en raconter, vos chroniques en sont parcourues et vous utilisez à de nombreuses reprises l'expression « tout dire, ce n'est pas raconter ». Je me suis demandé ce que signifiait cette formule, et je crois avoir compris en la mettant en résonance avec une phrase de Walter Benjamin que vous citez. La narration ne se livre ni ne s'épuise jamais entièrement. Elle conserve ses forces concentrées, et longtemps après sa naissance, elle reste capable d'éclosion. Walter Benjamin dans Le Narrateur en 1936. Cela mérite un commentaire, Frédéric Boyer.
Oui, c'est aussi un débat très contemporain aujourd'hui. Alors moi qui suis éditeur aussi, effectivement, c'est un débat très contemporain. On l'a vu encore récemment avec des livres qui sont parus cette rentrée littéraire, où effectivement on interroge sur est-ce que la littérature a le droit de tout dire, est-ce qu'on a le droit de tout raconter, est-ce qu'on peut balancer dans un roman les uns et les autres, est-ce que je peux parler de vous et puis dire des... Et tout d'un coup, on oublie quelque chose, c'est que de toute façon, effectivement, raconter, ça n'est pas tout dire. Et que même si quelqu'un prétend tout dire, il ne le fait pas. Et donc la force d'un récit, qu'il soit écrit ou oral, et qui est répété et raconté, c'est qu'à chaque fois quelque chose est entièrement rejoué. C'est que notre rapport à l'existence est entièrement misé. C'est comme au poker, si vous voulez, ou c'est comme à la roulette. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez pas raconter deux fois la même histoire. Et quand vous la racontez une deuxième fois, il y a quelque chose qui se joue de nouveau. Parce que aujourd'hui, je suis en face de vous, demain, je serai en face de quelqu'un d'autre. Ou parce que finalement, l'histoire elle-même est pleine de quelque chose. Et effectivement, c'est toute histoire nous attend. Et la force d'une histoire, c'est qu'elle est devant nous, même si c'est une histoire passée. Et c'est ça, en ce sens que raconter, ça n'est jamais tout dire, puisqu'il y a toujours quelque chose encore à dire. Et c'est ça la force du narrateur que décrit Benjamin. C'est-à-dire, le narrateur, c'est celui qui est garant, en quelque sorte, de la poursuite de l'histoire, et même de la poursuite de ce qui fait notre fond commun. Il y a une force civilisationnelle dans la question du narrateur. Voilà.
Un petit peu comme Lévinas fait la distinction entre le pouvoir dire et le vouloir dire. Le pouvoir dire toujours au-delà du vouloir dire, dit Lévinas.
Tout à fait. C'est une question de... Alors oui, on peut dire ça comme ça, de puissance, effectivement, au sens même... au sens de la dynamis grecque, de la dynamis grecque, c'est-à-dire cette puissance qui est là, à laquelle l'être doit répondre pour que quelque chose se passe. Voilà, ça s'appelle, je sais pas comment l'appeler, mais ça s'appelle l'existence humaine commune, ça s'appelle la civilisation, ça s'appelle la culture, je sais pas, mais c'est qu'on est les uns et les autres à répondre d'une puissance qui va nous mettre en mouvement, quoi, voilà.
Why should I feel discouraged? Why should the shine
Mahalia Jackson dans le célèbre gospel His Eye is on the Sparrow and I Know He Watches Me, un chant auquel vous avez, Frédéric Boyer, consacré une page entière dans l'avant-propos de vos chroniques. Qu'est-ce qui vous touche tellement dans cette musique, Frédéric Boyer ?
Alors d'abord, effectivement, c'est une musique qui me touche beaucoup. Je suis passionné par, exemple, Aretha Franklin. Et si je la cite, c'est parce que Mahalia Jackson était un peu la précédée, était un peu celle qui l'a guidée sur le chant après. Et Mahalia Jackson a chanté le jour du célèbre discours de Martin Luther King, I Have a Dream. C'est parce que ces textes sont à la fois, on rejoint toujours cette histoire, les textes des gospels sont des espèces de détournements, de compilations de textes bibliques et notamment des psaumes, et à la fois ils transforment cette matière-là en chansons extrêmement sentimentales, très fortes, parfois légères même, parfois jusqu'à détourner d'ailleurs certains thèmes bibliques. C'est très beau. Et là, il y a ce, c'est tiré de l'Évangile, hein. His eye is on the sparrow, c'est-à-dire son œil se pose sur les petits oiseaux, sur le moineau, et je sais qu'il me regarde. Et la chanson ne tient que là-dessus, comme acte de foi, comme chant, et elle avait une voix extraordinaire, enfin qui montait, descendait de façon vertigineuse.
Un peu une échelle entre le ciel et la terre.
Un peu, comme, oui, tout à fait.
Comme l'échelle de Jacob. Voilà. Il y a beaucoup de spiritualité dans ce chant, un mot un peu vague et un peu bateau, mais vous tenez à vous expliquer sur ce terme, et dans l'une de vos chroniques, vous posez la question de ce que l'on appelle spirituel. Et vous répondez dans un contexte concernant la pauvreté et la misère qui nous entoure. Cela pourrait surprendre, et pourtant, Frédéric Boyer, qu'est-ce que donc le spirituel ?
Alors, c'est une bonne question, et je crois qu'il faut rappeler aujourd'hui, parce qu'il y a aussi, pour moi, une... comment dire ça, le dire le plus gentiment possible. On a un peu abandonné le spirituel, et on l'a abandonné en le galvaudant, voilà, en en faisant quelque chose de personnel, un peu de confort, voilà, de confort. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant le confort, on peut pas non plus... Mais le spirituel, c'est le rapport aux besoins, c'est le rapport aux besoins de l'autre. Le spirituel, c'est celui, c'est ce mouvement qui va me faire entendre que si le besoin de l'autre souffre, si je ne remplis pas quelque chose de l'attente de l'autre, de son besoin, je manque une relation essentielle avec l'être même, avec le fait même d'être en vie et avec le fait même d'avoir été créé. Et le rapport au Créateur et le rapport au Dieu Tout-Puissant doit passer dans mon rapport à la faiblesse de l'autre et à la fragilité de l'autre, à la fragilité du monde. Donc le spirituel, c'est d'abord une définition politique. Et je crois beaucoup qu'effectivement, je disais dans cette chronique que les chiffres de la pauvreté étaient tombés ce jour-là, ce sont toujours les mêmes, ils augmentent toujours un peu d'ailleurs d'année en année, contrairement à ce qu'on dit. Donc c'est plus de 9 millions de pauvres en France, ça fait beaucoup pour une population de 67 millions. Et c'est vrai, je rappelais un texte de Péguy sur la pauvreté, qui est un très beau texte, où il disait de toute façon, arrêtez de discuter de la République, arrêtez de discuter des questions sociales, arrêtez de vouloir régler tous ces problèmes politiques si vous n'avez pas commencé par régler la question de la pauvreté. Tant que vous n'aurez pas réglé la question de la pauvreté, il n'y aura pas de République, il n'y aura pas de politique. Et c'est quelque chose qui résonne tellement fort aujourd'hui, parce que je crois qu'effectivement, commençons par régler les problèmes de souffrance sociale avant de demander aux gens d'être républicains, par exemple. Voilà, c'est... Bon. Et puis, voilà, il y a quelque chose dans la littérature biblique, talmudique, évangélique, puisque c'est quelque chose qui traverse ça, sur cette question du besoin de l'autre, et c'est quelque chose qu'a rappelé Lévinas. Alors, j'ai plus en tête le rabbin, c'est un rabbin du 19e, Rabbi Salanter, voilà, qui a expliqué, effectivement, que, vous allez me rappeler la citation.
La plus haute spirituelle, voilà, ma plus haute spiritualité voilà, est le besoin d'autrui.
Et le besoin d'autrui. Et il ajoutait, voilà, il reprenait la phrase biblique du Deutéronome, hein, que rappelle Jésus dans l'évangile également, l'homme n'a pas besoin que de pain, il a aussi besoin de parole, mais l'homme a aussi besoin de pain, et effectivement, c'est quand l'autre a besoin de pain que peut-être je réalise la parole en venant au secours de son manque ou de son besoin. Voilà.
Cette spiritualité, telle que vous la définissez, apporte de la lumière au monde, en tout cas du pain et de la lumière, aux autres et à soi-même. Et dans un très beau passage où vous parlez de votre mère, vous parlez d'un objet qui, dans vos mots, prend une tonalité métaphysique. Cet objet, c'est la fenêtre. Et vous rapportez quelques étymologies possibles qu'en donne Isidore de Séville, évêque wisigoth du 7e siècle, dont « fenero », qui signifie « pratiquer l'usure, prêter avec intérêt ». Une fenêtre prête la lumière, dites-vous, la retient en quelque sorte comme un gage. Je me suis demandé quel surplus de lumière rend-on à la fenêtre pour nous avoir prêté la lumière. Et je pense à ce très beau livre de Gérard Wajman intitulé « Fenêtre » qui, commentant Kafka, écrit « Mieux que oiseau sans plume, la bonne définition de l'homme pourrait être animal à fenêtre, ce qui le distingue de tout autre animal. » Frédéric Boyer.
Ah, c'est joli, oui, c'est bien. J'ai pas pensé à ça, mais c'est beau, oui. Oui, c'est une chronique sur la vieillesse, effectivement, et... une vieille dame qui passe ses journées à regarder par la fenêtre, même si sa vue baisse, et on ne sait pas ce qu'elle regarde. Et peut-être, alors effectivement, essaye-t-elle de rendre quelque chose à la fenêtre. On se dit toujours, quand quelqu'un passe sa vie à regarder par la fenêtre, on croit toujours qu'il essaye de voir quelque chose, mais peut-être pas. Peut-être qu'il essaye de rendre quelque chose à cette fenêtre, à cette ouverture qui lui a donné la lumière, effectivement. Bon, moi, ça m'a touché parce que je me suis demandé cette question toute simple, mais qu'est-ce qu'elle peut bien regarder en passant toute sa journée à regarder la fenêtre alors qu'il n'y a rien à voir, il y a toujours le même truc, un arbre, je sais pas quoi, une rue. Voilà. Et c'est, donc il y a un rapport comme ça d'échange qui se passe, peut-être, ou un désir de rendre quelque chose, effectivement. C'est pour ça que cette définition, elle était belle. Mais moi, j'adore les étymologies.
On est deux. Voilà. Mais alors, pour répondre, vous-même, qu'est-ce qu'on pourrait rendre à la fenêtre comme lumière qui nous la prête?
Ce qui me plaît dans cette petite fable étymologique, c'est que la lumière nous éclaire, mais peut-être que nous avons une dette envers la lumière, et que peut-être c'est une belle définition de l'être humain, d'être en dette avec la lumière, et d'avoir effectivement à rendre quelque chose à la lumière, en tout cas de signifier qu'il doit d'être là à la lumière, voilà. Il doit de parler à la lumière, il doit d'aimer à la lumière, il doit de vivre dans le monde à la lumière. Je trouve que c'est une belle idée de l'existence de l'homme.
Et pour conjuguer cette idée avec ce qu'on a dit précédemment, est-ce que la lumière, en tout cas c'est un texte du Talmud que reprend Lévinas, la lumière c'est le visage de l'autre ?
Aussi, bien sûr, on peut dire ça comme ça, effectivement. Et peut-être d'ailleurs que quand on se fixe comme ça sur la lumière, par une fenêtre, c'est pour faire apparaître le visage de l'autre, effectivement. Oui.
C'est d'ailleurs un texte qui dit quelle est la différence entre un miroir et une fenêtre. C'est que quand on regarde un miroir, on se voit soi-même. Quand on regarde une fenêtre, on voit l'autre qui passe. Et peut-être que c'est cela que l'on rend à la lumière qui nous a été offerte. Alors, je viens d'évoquer Isidore de Séville et les étymologies. Votre livre est scandé par les langues, le français bien sûr, mais aussi l'anglais, le latin, le grec et l'hébreu. Nous sommes au cœur de la question de la traduction. Quels sont les enjeux pour vous de la multiplicité des langues et de la nécessité de traduire? Et quel est, au-delà d'une éthique de la traduction, pour vous, le plaisir de la traduction, Frédéric Boyer?
Non, mais la traduction, c'est venu un peu, pas par hasard, mais c'est venu progressivement dans ma vie. D'abord, parce que quand on commence à lire, à faire des études, on est un peu obligé de se confronter à des auteurs qui n'ont pas écrit dans la même langue que vous. Et puis, quand on s'intéresse à la Bible, on est confronté à la question même de la traduction, parce que je pense que, en tout cas, dans ce qu'on appelle la Bible en Occident, ce mot qui est devenu dans l'Occident chrétien, qui a forgé ce mot-là, Bible, ce mot n'existe que par la traduction. C'est la traduction qui a créé ce qu'on appelle la Bible. Traduction qui est passée non seulement en plusieurs langues, mais en plusieurs cultures. Parce que quand la Torah est traduite en grec, quand le grec est repris en langue latine, en langue syriaque, etc., et quand les langues vernaculaires européennes vont s'emparer de ces textes-là, à chaque fois c'est des bascules, à chaque fois c'est des voyages qui vont à la fois approfondir et détourner et faire retour comme ça sur les textes. Et donc l'idée de la traduction, c'est cette espèce de feuilleté, mais un feuilleté délicieux, un feuilleté parfois avec des vides, parfois avec beaucoup de choses à l'intérieur, et qui crée un espace de civilisation. Pensez aux civilisations qui n'ont pas connu la traduction, elles sont mortes. Et c'est d'autres civilisations plus tard qui ont essayé de les traduire. Nous, on a la chance d'appartenir à un espace civilisationnel qui est au cœur, justement, des langues et au cœur des cultures et au cœur des échanges. Alors, ça en ennuie parfois certains, mais c'est... Voilà. Et la traduction, c'est un sport aussi. C'est à la fois un sport de combat et un sport d'entretien. C'est un sport par rapport à autrui, puisque quand vous traduisez, vous savez que vous avez affaire à l'autre, voilà, et que vous ne pouvez pas ne pas avoir affaire à l'autre. Et je dis toujours, parce qu'il y a toujours des débats sur la traduction qui sont toujours très pénibles d'ailleurs, c'est toujours les mêmes questions, même si les gens sont toujours très intelligents, mais il n'y a qu'une chose à dire, c'est la traduction, c'est réciproque. Il y a une réciprocité de la traduction, c'est-à-dire que le texte que vous traduisez, effectivement, vous le faites passer dans votre langue, donc vous bouleversez le texte que vous traduisez, mais le texte que vous avez traduit vous bouleverse aussi, et quand vous traduisez soit de l'hébreu, soit du latin, soit de l'anglais, eh bien, le travail de traduction change le rapport à votre propre langue aussi, et change votre propre langue.
Vos chroniques, Frédéric Boyer, sont comme 1000 portes et 1000 fenêtres qui s'ouvrent sur une multitude de paysages, et l'un d'entre eux a particulièrement retenu mon attention, le paysage de l'enfance. Vous parlez beaucoup de votre dernière fille, jeune adolescente, qui, avec vos autres enfants, enchante votre vie. Vous parlez de l'adolescence en général et de la vôtre, mais vous parlez aussi de l'enfance et vous citez Bernanos, une phrase qui vous inspire un commentaire. Georges Bernanos écrivait, je cite, « Je pense, plus que jamais, que l'enfance est aujourd'hui la dernière réserve du monde, sa dernière chance. » Une phrase que vous articulez à la question de la fiction et de la résurrection, Frédéric Boyer.
Ouais, ça fait beaucoup. Alors d'abord, cette phrase vient dans un texte après la guerre, je crois, justement. On est dans un moment d'extrême bouleversement, et il rappelle ça, voilà, il dit l'énergie doit venir, effectivement, de l'enfance comme réserve du monde. Bon, c'est une très belle phrase. Et non seulement l'enfance est la réserve du monde, mais elle est la réserve de personnalité humaine. Même très vieux comme nous, on est encore dans cette réserve-là de l'enfance. C'est-à-dire que toute vie jusqu'à sa fin doit quelque chose à la réserve de l'enfance. Ça pose aussi pas mal de problèmes. C'est pas que parce que c'est ça, voilà, c'est pas mal de névroses qui viennent de là, pas mal de blocages qui viennent de là. Mais les névroses et les blocages, ça fait partie de la vie aussi. Et c'est comme ça que j'entends ça, voilà. Et que, après, si on rattache ça à la résurrection, c'est encore un autre problème. Mais je pense qu'effectivement, ce qu'on appelle résurrection au christianisme, il faudrait en parler, on pourrait faire plusieurs émissions là-dessus. Mais ça a à voir avec l'enfance, effectivement. Ça a à voir avec un commencement qui est toujours devant nous. et qui dit quelque chose de très beau, même si on ne s'agit même pas de croire ou pas à la résurrection, c'est même plus le problème là, mais d'une façon poétique, la résurrection dit quelque chose de très beau qui m'a beaucoup marqué pendant toutes ces années qui étaient difficiles, c'est que la mort n'est pas la fin. C'est très douloureux à entendre au début, puis progressivement, vous comprenez quelque chose. C'est que la mort n'est pas la fin. Voilà. La mort n'est pas la fin de nos histoires, la mort n'est pas la fin de nos récits. Voilà. Et voilà, c'est ce que ça signifie.
Merci Frédéric Boyer pour cet échange et pour votre très beau livre qui, je dois le dire, m'a particulièrement touché et dont je rappelle le titre, L'éclat des flèches. J'ai eu l'impression en vous lisant de voir un funambule au-dessus du vide, réussissant à ne jamais tomber et nous permettant à nous lecteurs aussi de ne pas tomber, gardant l'équilibre grâce à la beauté, la poésie, la tendresse, l'humilité, la douceur, le souvenir des êtres aimés, l'écoute des mots, la foi et l'espérance, le dialogue et les rencontres, l'amitié et le silence, et surtout, les étoiles qui brillent à chaque page comme la petite boussole de notre futur. Merci encore Frédéric Boyer.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager et Markin Waknin. À la prise de son aujourd'hui, Maïwenn Le Géant, à la réalisation Doria Zénine. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Françoise-Anne et toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et une belle nouvelle année et vous souhaite d'espérer, c'est-à-dire, comme vous le dites Frédéric Boyer dans la dernière page de votre livre, non pas vouloir que tout recommence comme hier, mais que tout change et que nous puissions dire avec Dante, sortant de son voyage en enfer, et là, nous sommes sortis revoir les étoiles. Coltouv, Leitraot, au revoir. Bonne année, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.